Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Aujourd'hui, on va parler de procrastination, puisque suite à un sondage que j'ai réalisé sur Instagram pour te demander si tu avais envie d'autres petites capsules mindset, comme la capsule sur « Au secours, je m'éparpille », eh bien, tu m'as répondu oui. Et entre le syndrome de l'imposteur, le manque d'inspiration, la comparaison avec les autres, le fait de se sentir débordé, démotivé, de trop travailler, de remettre les choses en doute, eh bien, c'est la procrastination qui a gagné. Alors, j'imagine que, comme moi d'ailleurs, tu as dû lire probablement ou entendre ou voilà plein d'articles, de podcasts, de posts Instagram sur la procrastination. Du coup, j'ai envie d'aborder le sujet d'une manière un petit peu différente pour éviter la redite de ce que tu as déjà peut-être entendu mille fois, donc à savoir voilà les fameuses causes de la procrastination et puis le plan d'action à mettre en face. Surtout que je parle assez souvent de poser des objectifs, de mettre des plans d'action, etc. Donc j'avais juste envie de raconter, entre guillemets, cet épisode d'une manière un petit peu différente et d'ailleurs d'une manière aussi un petit peu plus spontanée parce que je me souviens, il y a quelques années en arrière, avoir vu un contenu de Tim Urban sur justement la procrastination et ça m'avait marqué. Donc j'ai envie de revenir sur cette petite histoire et de te la raconter à mon tour. Donc, si on remet quand même les choses dans leur contexte, hein, par définition, effectivement, la procrastination, eh bien, c'est tout simplement le fait, on va dire, de reporter une tâche ou une décision, de la remettre à plus tard. Et donc, en général, qu'est-ce qui se passe dans une journée type, hein? On se lève le matin motivé, on a envie de faire plein de choses, on a une to-do list bien remplie. On a déjà donc voilà des objectifs et des actions, des choses à faire dans notre agenda. Et puis, au fil de l'eau, on se laisse un petit peu distraire. Ou alors on est dans une stratégie d'évitement, on va dire, et in fine, on finit souvent la journée avec cette impression, enfin souvent ou parfois en tout cas, ou sur certaines tâches, projets ou choses à faire, d'avoir été, de ne pas avoir avancé hein, finalement, d'être resté dans l'inaction. On se sent parfois un petit peu évidemment coupable hein, de ça, c'est une émotion qu'on connaît bien les procrastinateurs, toute cette culpabilité qui vient avec le fait de pas avoir fait peut-être ce qu'on avait prévu. Et puis, in fine, on reste quand même dans une situation inconfortable puisque les choses restent à faire, entre guillemets, et notre charge mentale est toujours là sur ces petites tâches. Alors souvent, effectivement, hein, on se retrouve dans un phénomène de procrastination. Par exemple, dans une phase d'indécision, on n'arrive pas à prendre une décision, on hésite, on est paralysé finalement dans l'inaction parce qu'on ne sait pas quelle décision prendre ou ce qu'il faut faire. J'en parle d'ailleurs beaucoup dans l'épisode « Au secours, je m'éparpille ». Donc ça, c'est l'une des causes, en fait, hein, voilà, l'indécision. Ça peut être aussi lié à la fatigue, un manque d'énergie, donc on a de la difficulté à s'y mettre, on n'arrive pas à trouver finalement cette volonté. En général, on arrive à réaliser des tâches peut-être plus exigeantes ou plus pénibles, entre guillemets, quand on a une bonne énergie. Et là, de temps en temps, c'est pas forcément le cas. Il y a aussi la cause, ça peut être tout simplement l'ennui des tâches pour lesquelles on n'a aucun intérêt. Je pense notamment, par exemple, pour certaines d'entre nous, à la comptabilité. Donc là, effectivement... Pareil, on va éviter, hein, on va reporter, on va fuir un petit peu devant ça. Je pense aussi à tout ce qui va être complexe. Donc, évidemment, quand on est devant un gros projet, quelque chose de compliqué peut-être qu'on n'a jamais fait, qu'on ne connaît pas bien. Alors, je pense notamment, par exemple, à sortir une offre en ligne ou quoi. Bah, évidemment, tout de suite, il y a un risque de découragement devant l'ampleur de la tâche. On ne sait pas par où commencer. Donc, là aussi, pareil, hein, voilà, évidemment que le plan d'action, c'est bah, de se rappeler qu'un éléphant se mange une bouchée à la fois et de commencer par des petites tâches. Mais même si on le sait, eh bien, on préfère rentrer dans une stratégie d'évitement. Il y a aussi souvent le manque de motivation ou le manque d'intérêt pour quelque chose, tout simplement parce qu'on manque de vision. Hein. C'est pas qu'on a la flemme ou quoi, mais nos objectifs sont pas clairs, on sait pas où on va. Du coup, bah, plutôt que de se concentrer sur cet objectif, on va se laisser distraire par des choses ou des actions non prioritaires, sans valeur. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on dit hein, que pour réussir à poursuivre ce qu'on a à faire, bah, il faut avoir un but en fait pour que ce soit moteur, pour être dans l'action. Et donc, bah, si on a un manque de visibilité, un manque d'objectifs concrets, bah, évidemment, on risque un petit peu aussi là de se laisser aller et de laisser les choses voilà, sans qu'il se passe rien. Ça peut être aussi, et on l'entend souvent, la peur de l'échec, le manque de confiance en ses capacités, la peur du regard des autres. Donc du coup, bah, tant qu'on ne fait pas, on ne s'expose pas. Et puis pour d'autres personnes encore, ça peut être le perfectionnisme voilà, qui les bloque, peur de ne pas assez bien faire. Alors du coup, bah, on ne fait rien du tout. Comme ça, au moins, voilà, on ne pourra rien nous reprocher, on ne pourra pas être critiqué, on ne pourra pas se planter. Là où bah, on devrait effectivement se dire que 80% c'est déjà bien et foncer. Même si je sais que c'est dur à entendre pour les plus perfectionnistes d'entre vous. Donc, autrement dit, voilà un petit peu les causes hein, du perfectionnisme, de la procrastination, pardon. Donc, des causes diverses et variées. Et moi, j'avais envie de vous partager une autre approche par rapport à ça. Et donc, pour ça, on va se mettre dans la tête d'un non-procrastinateur et dans la tête d'un procrastinateur. Alors, si je me mets dans la tête d'un non-procrastinateur, je vais imaginer que cette personne, ce non-procrastinateur, je ne sais pas s'il y en a parmi nous, eh bien, c'est comme si dans son cerveau, il y avait un capitaine à la barre du navire qui sait où il va, qui fonce vers sa destination, que rien n'arrête, voilà, et il prend des décisions, voilà, consciencieuses, il y va, il avance, ok ? Et dans la tête d'un procrastinateur, ça se passe pas du tout comme ça. Alors, on a aussi ce fameux capitaine à la barre du navire, mais, et là je reprends le concept de Tim Urban, on a aussi ce petit singe, et ce petit singe qui vient un peu, j'aurais pu dire le petit démon, vous savez, qu'on a sur l'épaule gauche, et qui vient un peu nous perturber, nous dérouter du droit chemin. Et ce petit singe, en fait, lui, ce qu'il aime, c'est la distraction. Lui, ce qu'il aime, c'est la facilité, l'amusement, un petit peu tout ce qui est facile et fun dans l'instant présent. Et donc, eh bien, lui, ce petit singe, il nous fait faire des choses, des activités qu'on devrait faire sur notre temps libre, en l'occurrence, qu'on ne devrait pas faire à cet instant-là. Eh bien, lui, il nous emmène vers ça, ce petit singe, ce qui fait que, bah, au lieu de travailler, par exemple, sur votre client idéal, eh bien, vous êtes en train de regarder des photos de déco sur Pinterest, de salles de bain et de décoration Wabi Sabi, par exemple. Et puis, de là, vous allez partir sur des images d'identité visuelle. Et puis, de là, vous allez finir par une vidéo sur YouTube qui va parler de comment avoir un bel espace sur votre groupe communautaire Discord. Et puis, de là, vous allez cliquer sur une pub qui va vous amener sur Facebook. Et puis de là, vous allez vous retrouver, vous savez, sur ces actualités sensationnelles Facebook qui nous font miroiter de voir les avant-après des stars, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous souriez en écoutant ça, mais j'aimerais savoir qui ne s'est jamais retrouvé dans ce genre de situation. Donc voilà où il nous emmène ce petit singe qui aime, lui, le plaisir instantané, la gratification instantanée, tout ce qui va être finalement plus facile et qui va un petit peu mettre de côté tout ce sur quoi finalement on devrait être en marche. Eh ben non, le petit singe, lui, il vient nous perturber, nous sortir de ce chemin-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, le non-procrastinateur, lui, par exemple, quand il a un projet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien répartir ce projet en blocs de temps. Il va avoir un super rétro-planning. Les choses doivent être faites dans cet ordre-là. Donc, par exemple, moi, j'interviens là dans un yoga teacher training 200 heures. Ça fait, je pense, au moins un an que je sais que j'interviens dans ce yoga teacher training. Eh bien, un non-procrastinateur, il aurait peut-être effectivement gérer par exemple cette présentation au fil de l'eau, donc il aurait peut-être travaillé sur l'ordre du jour et puis quelques temps plus tard il aurait prévu de travailler peut-être sur la rédaction des slides et puis quelques temps plus tard le fait de mettre en page ses slides, de venir peaufiner son contenu et puis quelques temps plus tard peut-être de répéter cette présentation et de venir l'améliorer au fil de l'eau et ainsi de suite de façon à être prêt le jour J. Un procrastinateur, lui, dans sa tête, comment ça va se passer? Exactement de cette manière-là, sauf qu'en fait, au fur et à mesure des échéances, au fur et à mesure de ce qu'il avait planifié idéalement pour arriver jusqu'à ce jour J tranquillement, il va rien se passer les trois premiers mois et donc c'est pas grave, l'ordre du jour je pourrais le faire les trois mois suivants, et puis les trois mois suivants où il est censé faire les slides par exemple de cette présentation, il va rien se passer non plus, et ainsi de suite jusqu'à ce que les deux derniers jours qui précèdent l'échéance, il va y passer 24 heures plus peut-être deux nuits blanches de sorte à ce que le travail soit fait pour le jour J. Et alors la bonne nouvelle, c'est qu'en général, effectivement, il se passe rien pendant toute cette période où on pourrait avancer et faire des choses, mais on est toujours au rendez-vous. Alors je dis « on » parce que moi je pense que je fais quand même partie de la team aussi des procrastinateurs, même si je me soigne depuis longtemps. En plus, je pourrais faire un parallèle avec le human design. Il faut savoir que quand en human design on a une racine définie, on est plutôt habitué à ce fonctionnement des deadlines du procrastinateur qui fonctionne avec les deadlines, et donc c'est mon cas. Donc en général, en tout cas, procrastinateur avec des deadlines, il finit toujours par s'en sortir. Et pourquoi il s'en sort? Parce que, à côté de ce petit singe, notre procrastinateur, il a effectivement un ange gardien qu'on va appeler le monstre panique. Et le monstre panique, en fait, pendant tout ce temps-là, il dort. Et il laisse les choses se faire, il nous laisse s'amuser, se distraire, ne pas être sur la tâche qu'on devrait accomplir, mais occuper notre temps autrement. Et puis, il va toujours se réveiller au bon moment. C'est-à-dire qu'il va toujours se réveiller quand, effectivement, on arrive au pied du mur, quand il n'y a plus d'autre choix que de prendre une décision, quand on arrive proche d'un scénario catastrophe s'il ne se passe pas quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle ce petit monstre, le monstre panique. C'est par exemple le cas typique où j'interviens dimanche en yoga teacher training. Bon, évidemment, c'est un exemple qui est un peu facile parce que je savais naturellement ce que j'allais présenter puisque c'est ma zone d'expertise, mais quand même pour que l'expérience soit au mieux, ça demande quand même un petit peu de temps de préparation. Et donc typiquement, l'échéance est dimanche et c'était très compliqué pour moi de me mettre sur cette présentation, même si j'en ai fait le brouillon la semaine dernière, mais on voit que je suis vraiment dans la dernière ligne droite pour préparer ma présentation. Ça aurait pu être pour préparer un module de ma formation, ça aurait pu être pour d'autres exemples comme ça, une newsletter, un podcast, vous savez, je suis souvent en team last in time. Donc voilà, et puis à un moment, on a ce monstre qui se réveille et du coup, c'est un petit peu finalement grâce à lui qu'on s'en sort, puisque Du coup, finalement, hein, c'est un peu le système du procrastinateur, en fait, hein, et ça marche. Donc, du coup, on pourrait se dire, ok, c'est un mode de fonctionnement. Comme je vous dis, les personnes qui ont la racine définie, notamment en human design, c'est un mode de fonctionnement qui, finalement, peut convenir, en tout cas, parce que, on peut tous avoir des façons d'aborder les choses différentes. Du coup, alors évidemment, si on fait ça tous les jours, évidemment qu'il peut y avoir des conséquences néfastes sur le bien-être. Mais bon, en général, c'est pas tout le temps. D'ailleurs, on va y revenir. Mais donc, on pourrait se poser la question finalement si ça marche et si ça fonctionne comme ça. Eh bien, les procrastinateurs, ils arrivent toujours à leur fin. Donc, finalement, où est le problème ? Eh bien, le problème, c'est que on a deux types de procrastination. On a le type de procrastination avec une échéance dans le temps, dans le calendrier, avec une deadline. Et donc, s'il y a une deadline, on voit que les effets de la procrastination, finalement, ils sont contenus dans le court terme parce que à un moment donné, le monstre panique vient s'en charger et donc on arrive toujours à nos fins. Alors, peut-être des fois un peu sur les rotules, un peu fatigué, un peu à la dernière minute, certes, mais finalement, les effets de la procrastination sont contenus. Le problème, c'est le type de procrastination sans échéance. Et en fait, la réalité, c'est que une majeure partie des choses dans la vie, plein de choses, autres que peut-être des tâches dans notre business, etc., n'ont pas d'échéance. S'occuper de notre santé, il n'y a pas d'échéance. S'occuper de notre famille, être présente pour notre famille, il n'y a pas d'échéance. Prendre soin de soi avec des séances de sport, des routines self-care, etc., il n'y a pas d'échéance. S'occuper de sa relation amoureuse qui bat de l'aile, il n'y a pas d'échéance. Donc en fait, même quand on débute dans l'entrepreneuriat, ou quand justement vous avez un projet, vous avez envie de lancer une offre en ligne par exemple, eh bien au début, en fait, par rapport à votre situation actuelle, il n'y a pas de limite pour faire ce travail-là. Il n'y a rien qui se passe au début quand on se lance dans l'entrepreneuriat, avant d'être dans l'élan et que d'avoir ses premiers clients et que les choses avancent. Justement, on n'a pas forcément de deadline, on n'a pas forcément de prestataire, on n'a pas de compte à rendre, on n'a pas de client, on n'a pas de rendez-vous client, on n'a pas d'obligation, on n'a pas des gens qui nous attendent pour notre newsletter tous les dimanches. Je vous assure que quand vous commencez à être régulier dans la production de contenu, le jour où il n'y a pas, on vous envoie un mail ou un message ou un DM sur Instagram pour vous dire il n'y a pas, ça va, tout va bien. En général, c'est bienveillant d'ailleurs. Et comme quoi, les gens s'habituent en fait à cette fréquence. Sauf que quand on démarre dans l'entrepreneuriat ou quand on démarre effectivement un projet, comme par exemple vouloir se lancer dans une offre en ligne, mais qu'à côté, on a peut-être notre job du quotidien, on a peut-être déjà nos cours en présentiel, etc. Donc, il n'y a pas vraiment en soi, peut-être qu'on a des aides aussi, par exemple, qui enlèvent un peu comme cette pression. Effectivement, on n'a pas d'échéance. Donc, quand on démarre dans l'entrepreneuriat ou quand on a envie de se lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle offre, on peut se retrouver dans ce cas de type de procrastination sans échéance et sans deadline. Mais tout comme aussi, comme je le disais, beaucoup de situations de notre vie, du quotidien, santé, famille, sport, amour, qui sont aussi sans échéances de base. Donc si le seul mécanisme du procrastinateur pour passer à l'action, c'est le fait d'avoir une échéance, eh bien on voit que dans toutes ces situations sans échéance, du coup, le monstre panique, entre guillemets, il va jamais se réveiller. Ce qui fait que les effets de la procrastination ne sont plus contenus, mais au contraire vont se propager à l'infini et peut-être même, du coup, sur le long terme. Et c'est là où ça commence à être problématique, parce que c'est des situations dont on n'a pas forcément facilement conscience, c'est moins visible, entre guillemets, que ces situations-là n'ont pas d'échéance et qu'elles sont en train de nous filer dans les mains, et que la procrastination sur toutes ces situations est en train de se propager à l'infini sur le long terme. C'est moins visible, et puis c'est ce qui fait que finalement, on va finir par
vraiment en souffrir de cette procrastination parce qu'elle va devenir une source de regret, une source de frustration, jusqu'à ce que peut-être même on devienne spectateur de notre vie et on laisse passer la vie s'écouler comme ça. Je sais que je partage des fois des espèces de petits tweets sur Instagram en disant plein d'autres personnes qui n'ont même pas peut-être les compétences que tu as ou autres sont en train de faire ce que tu rêves de faire tout simplement parce qu'ils ont décidé de passer à l'action. C'est exactement ça. Donc la conclusion ma conclusion sur cet aspect de la procrastination, c'est que pour travailler, déjà il faut en avoir conscience, puis à un moment donné quand on en a conscience, il y a personne qui viendra vous prendre par la main en fait, donc c'est à soi aussi de se prendre en charge là-dessus et de travailler en fait. Et chercher des méthodes d'organisation ou je ne sais quoi, des outils de project management, des solutions miracles, tout ça, des méthodes de productivité, etc. Tout ça, ça fera pas ce travail qu'on a à faire soi, de être honnête avec soi et avec sa procrastination. Et ensuite, à mon sens, il s'agit pour un petit peu contrer cette procrastination, si on a envie de changer les choses, de travailler son rapport aux échéances, de travailler avec un rapport sain aux échéances et en tout cas d'apprendre à se fixer des échéances. Parce que sinon, effectivement, encore une fois, ce qui peut être fait n'importe quand, ne sera en général jamais fait. Donc, comment on vient apprendre à se fixer des échéances, décidément? Mon meilleur conseil, c'est peut-être de commencer par faire une liste. Alors, ça va être assez classique, mais de faire une liste de tous les sujets sur lesquels tu procrastines. Et aussi, sur tous les sujets sur lesquels tu procrastines, sur tous les sujets que tu rêve de faire, ce que tu rêves de faire et que tu t'autorises peut-être pas à faire, ok? Et aussi, je sais qu'il y a des sujets sur lesquels tu procrastines qui te font pas rêver, mais tu sais que l'effet serait positif si tu t'en occupes, c'est-à-dire que ça va t'apporter de la satisfaction, ça va te rendre plus heureux, ça va te libérer de la charge mentale. Et en fait, entre guillemets, c'est un peu genre ces émotions dominantes que ça va t'apporter, c'est souvent soit de la satisfaction, soit de la paix, parce que t'as moins de charge mentale, t'auras fait les choses, tu seras tranquille, soit peut-être aussi de la fierté, un sentiment d'accomplissement, de fierté, de réussite. Et en fait, quels sont les sujets sur lesquels tu procrastines aujourd'hui, qui même si c'est pas marrant, parce que effectivement t'es pas motivé à faire ça, c'est une décision difficile à prendre, etc., mais tu sais que si tu t'en occupes, effectivement, ça va t'apporter ce genre d'émotion, donc la satisfaction, la paix, la fierté. Et puis aussi, quels sont donc les projets que tu rêves de faire, mais que tu t'empêches de faire, peut-être par rapport à différentes causes qu'on a vues tout à l'heure, donc le manque de confiance en toi, le manque d'estime de toi, la peur de l'échec, le perfectionnisme, etc. Donc essaye de dresser une liste de tout ça un petit peu confondu. Et l'idée à partir de là, c'est de fixer des échéances. Alors, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être 3 mois, ça peut être voilà, mais essaye de venir te fixer des échéances. Après, si tu sais que toi, tu fonctionnes en last minute, il y a des choses qui sont peut-être moins prioritaires que tu feras la semaine qui précède l'échéance que tu as fixée, mais c'est complètement OK puisque l'idée, c'est un petit peu de truster le truc et de se dire, quand j'ai une échéance, c'est plus facile pour moi à faire. OK? Et à partir de cette échéance-là, évidemment que tu peux, à partir de là, dérouler un plan d'attaque, mais c'est aussi juste pour toi si à partir du moment où tu as une échéance, tu sais que tu vas le faire et que tu mets pas tout un plan d'action peut-être au préalable en place, parce que ça, c'est les conseils qu'on te donne déjà, je pense, depuis des mois et des années et que pour autant, t'appliques pas forcément. Par contre, effectivement, tu vas me dire, mais si j'ai une échéance, je sais que c'est moi qui me la suis fixée et donc elle est pas forcément... je sais que je peux m'en échapper, quoi. Donc du coup, justement, c'est dans ces moments-là où moi, je t'invite à te rappeler déjà de cette histoire et de comment tu peux aussi facilement passer à côté de ta vie si tu laisses justement tous les types de procrastination sans échéance se propager à l'infini et sur le long terme. Tu vas passer à côté des choses principales, puisqu'on l'a vu, hein, c'est la santé, la famille, le prendre soin de toi, l'amour. Donc c'est quand même, j'imagine, des piliers importants dans ta vie. Et donc c'est de te rappeler que si tu y échappes, bah effectivement, t'auras pas ce sentiment de satisfaction, de paix, de fierté. Évidemment, donc ça n'a rien de facile à mettre en place, hein. Et il y a plein d'autres petites actions concrètes que tu peux faire dans ton quotidien. Je vais t'en partager quelques-unes que moi-même, j'utilise pour hacker mon cerveau sur la procrastination. Mais mon idée, c'était vraiment un petit peu de te raconter cette histoire, que tu te rappelles du petit singe et du monstre, et surtout que tu prennes conscience finalement de à quel point la procrastination peut avoir des effets autres que juste tant qu'il y a des deadlines et que c'est sur quelque chose de contenu, bah c'est ok de fonctionner comme ça. Notamment, je pense aux racines définies. Mais tu peux être spectateur de ta vie, passer à côté de choses, avoir des regrets, et ça serait vraiment dommage. Donc, j'avais plutôt envie d'orienter cet épisode sur ce sujet-là. Après, concernant les petites choses que tu peux faire pour hacker ton cerveau, moi, je sais que l'environnement, par exemple, joue beaucoup. Parfois, je sais que si je reste chez moi, ou en tout cas, je constate que quand, par exemple, je vais bosser dans un café, finalement, j'arrive parfois à être plus focus. Donc ça peut être une option. Je sais aussi que ce qui m'aide, c'est d'avoir des routines, donc notamment des routines dans mon business. Je sais aussi que pour certaines personnes, ce qui va les aider à rester focus et concentré et à éviter de se distraire, c'est d'une part de couper les notifications ou autre, mais aussi par exemple, ça peut être une playlist. Donc ça c'est des petits exemples, effectivement des petits pansements qui peuvent t'aider à moins peut-être succomber aux tentations. Évidemment, avoir des objectifs précis, tu le sais, ça aide aussi. Et puis, quand tu te fixes un objectif avec un plan d'action, avec de la visibilité aussi, tout ça, on a vu, ça va aider. Mais ne pas oublier aussi d'y associer les points de récompense ou de célébration, puisque ça va vraiment satisfaire la partie limbique. Alors, je ne suis pas spécialiste en neurosciences, mais je l'ai lu plusieurs fois. Et moi, je sais que je fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un lancement, une nouvelle offre, etc., je me mets derrière des week-ends, des trucs qui me font plaisir. Vraiment, j'aime bien fonctionner aussi à la récompense, entre guillemets. Évidemment aussi que, je le disais tout à l'heure, au début de cet épisode, qu'on mange l'éléphant une cuillère à la fois, une bouchée à la fois. Donc ça, c'est le principe des petites actions. Venir détailler tout ce qu'on a à faire pour éviter de rester figé devant l'ampleur de la tâche. Et je rajouterais, moi aussi, se laisser le temps de les faire. Donc, j'en ai aussi parlé dans l'épisode au secours, je m'éparpille. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'on apprécie aussi de se laisser le temps de faire les choses. C'est plus facile, je trouve, quand on a du temps devant nous et qu'on ne se met pas la pression, entre guillemets, pour le coup, la mauvaise pression là par rapport à ça. Quelque chose qui fonctionne bien aussi, alors que moi, j'utilise souvent, et c'est aussi pour ça que je suis une aficionados des stratégies de pré-vente ou autres, c'est de s'engager, d'annoncer les choses, d'annoncer ce qu'on compte faire. Alors évidemment, ça n'empêche pas de revenir sur sa décision ou de changer ses plans, mais ça peut aider. Alors, pour le coup, là, il faut faire attention si toutefois ça résonne plus, forcer les choses parce qu'on a dit à notre audience qu'on allait créer ça alors que ça vient plus résonner en nous, ça serait une mauvaise chose d'aller dans cette logique de résistance. Donc c'est pour ça que il y a des conseils comme ça aussi sur lesquels faut être vigilant, parce que s'engager, annoncer pour tenir sa promesse, c'est bien, mais ça peut aussi vous foutre en l'air, vous rendre malade et en fait au final, je suis désolée de le dire, mais votre audience, elle s'en fiche un peu si finalement vous changez de plan et que vous faites pas comme prévu ou que vous faites évoluer votre offre. Enfin voilà, les gens s'en remettront en fait. Donc c'est pour ça que je fais aussi attention maintenant à tous ces petits conseils, tous ces petits tips. Évidemment aussi, il y a une histoire d'énergie. Donc ça, vous le savez, vous avez votre propre fonctionnement et il y a des moments dans la journée, dans le mois, encore une fois, on est une nature cyclique, où on va avoir l'esprit plus frais. Alors moi, il y a deux options. Soit effectivement, quand on a l'esprit plus frais, on va sur les tâches les plus prioritaires, mais on peut aussi utiliser ce moment-là certaines fois pour abattre toutes les petites tâches. Et moi, je sais que toutes les petites merdes que je reporte souvent, alors je vais vous donner des exemples, c'est vraiment genre classer les papiers, aller laver la voiture, vraiment tous ces trucs, prendre un rendez-vous chez le médecin, tous ces trucs effectivement où il y a pas réellement de deadline en fait, parce que je peux être capable de bosser jusqu'à minuit pour le podcast du lendemain, mais ça par contre je vais pas faire d'effort. Et bien j'aime bien pratiquer effectivement le concept de la power hour, qui est de mémoire un concept de Gretchen Rubin, et effectivement c'est le fait de s'atteler pendant une heure à des tâches un peu pénibles, un peu compliquées, mais du coup une fois que c'est fait, c'est vrai qu'on se sent soulagé, et souvent en plus on s'aperçoit que finalement c'était pas si compliqué, ça prenait pas tant de temps, et on se sent tellement libéré après. Je pense qu'on connaît tous ce sentiment là donc voilà, évidemment il y a aussi le fait de s'entourer, parce que des fois, et là aussi notre type énergétique peut jouer, le fait d'être, par exemple, un projecteur qui va être au contact d'un manifesteur générateur sur un temps donné, par exemple, si c'est un moment où il doit, lancer une nouvelle offre. Ça peut être super intéressant pour lui d'être coaché par un manifesteur générateur, ou en tout cas d'avoir le moyen d'être au contact d'un manifesteur générateur, par exemple, pour venir, entre guillemets, profiter de cette énergie que le générateur manifesteur va un peu lui transmettre assez naturellement, puisque ça fait partie de son type et de son aura. Donc ça aussi, ça veut dire que s'entourer parfois d'autres personnes, alors ça peut être aussi pour, entre guillemets, se motiver à faire quelque chose en même temps, ça peut être du coworking en ligne, une session de travail ensemble, ça aussi ça peut aider à hacker la procrastination à un moment donné. C'est quelques exemples, mais j'avais pas envie que cet épisode tourne autour de ces plans d'action finalement que vous pouvez retrouver un peu partout, et c'était important pour moi de vous raconter surtout cette histoire des deux types de procrastination, avec échéance et sans échéance, pour comprendre que finalement ce qu'on a à apprendre, c'est surtout à se fixer des échéances et comment faire pour pas en échapper et les respecter, et que le job soit fait, job is done. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à me partager tout ça en story. Je serais ravie de vous lire, de voir si ça vous a été utile. YogiBiz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.